Sans transition, on va passer à une autre espèce stépique qui est aussi présente en croc, qui est l'outarde canepetière. Donc on était surpris en regardant ta présentation, Laurent, de voir qu'elle n'était pas dans les prédateurs du criquet de croc. Si, oui. Ok, on était donc rassurés parce qu'en effet, on va voir ici un grand prédateur d'orthoptères dont on va vous parler. Donc moi, je suis Catherine Ménard, je suis chargée de mission à la DREAL, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, donc que vous connaissez parce qu'on vous délivre les permis CITES. Donc moi, je travaille avec ces collègues-là, mais je suis en charge de... J'ai trois casquettes. J'instruis les dérogations espèces protégées pour l'exploit Touche-Charente. Je suis basée à Poitiers. Je suis aussi secrétaire du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Et ma troisième casquette qui nous concerne aujourd'hui, c'est la coordination du PNA, Plan National d'Action, consacré à l'outarde canepetière. Donc je vais vous présenter l'outarde comme un outil de restauration écologique d'un territoire via la réintroduction. Donc j'ai à mes côtés Oriane Chevasson, qui elle est co-responsable de l'élevage conservatoire de l'outarde aux Odyssées.
Bonjour. Donc dans un premier temps, on va vous présenter rapidement donc, l'espèce, ce que c'est qu'une outarde. On va parler ensuite de sa conservation pour enchaîner sur le PNA et les élevages donc, qui découlent de ce PNA, ainsi que le maintien du milieu, pour finir par le protocole de relâcher et puis vous présenter quelques chiffres sur l'élevage. Donc l'outarde canepetière, magnifique oiseau, je ne suis peut-être pas très objective, qui fait partie des otidiformes, qui a une taille voilà, de 40 à 45 cm de hauteur pour un peu plus d'un mètre d'envergure. Les plus gros mâles peuvent faire jusqu'à 1 kg. C'est une espèce qui est très méfiante et très difficile à observer. On la trouve dans les plaines céréalières, hein, donc luzerne, prairie jachère, chaume de colza. Au niveau de la reproduction, donc c'est un lec éclaté. Elle fait un nid, la femelle va faire un nid très simple au sol, c'est une simple dépression dans laquelle elle va déposer 3 à 4 œufs qu'elle va pondre de début mai à fin juillet. L'incubation dure en moyenne 21 jours. Et puis, on a une indépendance des jeunes qui se fait à 8 semaines. Et c'est une espèce aussi qui fait des rassemblements donc post-nuptiaux à partir du mois d'août. Elle mange principalement donc, des végétaux, des jeunes pousses, des repousses de colza, ce genre de choses. Elle adore aussi les orthoptères, donc les petits criquets de croc qu'on a vus tout à l'heure. Et par contre, les poussins sont essentiellement insectivores. Un poussin d'outarde mange 250 orthoptères par jour.
Donc en termes de répartition, c'est une espèce qui a subi un fort déclin au cours du siècle dernier. On avait avant une espèce qui était répartie depuis l'ouest, la péninsule ibérique, jusqu'en Sibérie et en Asie, et avec une aire de répartition qui s'est fortement contractée. On a une vingtaine de pays en Europe qui l'ont vu disparaître au cours du siècle dernier, et on va faire après un petit focus sur la France, où on a deux populations. Donc les taches que vous avez enfoncées hein, partout, c'est les taches où la population est sédentaire. Et celles qui sont plus claires, c'est là où elle est migratrice. Donc en France, on a deux populations, une population migratrice dans le centre-ouest et une population sédentaire sur l'arc méditerranéen. Donc sa rétraction de l'aire de répartition explique aujourd'hui un statut UICN assez défavorable. Donc elle est quasi menacée au niveau mondial, vulnérable en Europe. Ça risque ça aussi de changer puisque les populations ibériques se portent également très mal. En danger en France, avec une distinction entre les deux populations, en danger pour la population migratrice et de préoccupation mineure dans le sud. Néanmoins, les inventaires qu'on fait régulièrement montrent que la population du sud, au-delà de stagner, commencerait à décliner. Donc la préoccupation mineure vient du fait que ces dernières années, à la faveur d'une déprise agricole, a vu d'anciennes vignes se transformer en jachères. Donc la population a été multipliée par 5. Mais aujourd'hui, des menaces, notamment d'urbanisation, on va le voir, menacent également les populations dans le sud. Donc on a pu observer de 1980 à 2000, et ça se poursuit jusqu'à maintenant, un fort déclin. On a perdu 95% de cette population du centre-ouest. Donc on était à plus de 7000 mâles, et pour passer à aujourd'hui 313 mâles. Alors l'espoir vient dans le fait que cette perte forte a été observée de 80 à 2000, et depuis il y a eu un moment de projets de conservation qui se sont mis en place, qui ont permis de stopper le déclin. Donc la courbe, ça commence à s'inverser, mais très lentement. On continue d'avoir un sexe ratio qui est biaisé en faveur des mâles et qui nous montre qu'on a un problème de recrutement et de destruction probable des femelles. Donc vous voyez sur la carte à gauche, en 1975, les zones de localisation des mâles chanteurs, hein, puisque les femelles sont très cryptiques, on ne les compte pas dans les enquêtes. Et donc, en 2015, la carte de droite, deux populations qui sont vraiment très séparées, bien rétractées. Il faut voir qu'au départ, on avait quand même des outards, mais on a dans la bibliographie des outards jusque dans les Hauts-de-France, jusqu'en Alsace, et aujourd'hui, on a vraiment une toute petite population autour du Poitou-Charentes et des quelques départements alentours. Donc, les principales menaces qui passent sur cette espèce, c'est essentiellement des menaces d'origine agricole, à savoir l'intensification de l'agriculture. On a eu la disparition de la polyculture élevage, et notamment d'élevage extensif. Donc, les prairies pâturées ont disparu, les prairies de fauche également, puisque maintenant les bêtes sont en stabulation, nourries, qui de tourteaux de soja, qui de maïs en silage. Donc, plus besoin de faire des prairies de fauche. Et on avait au départ aussi avant une rotation dans les cultures, avec des luzernes qui étaient souvent mises en tête de rotation et qui aujourd'hui n'existe plus non plus, puisque remplacée par des engrais chimiques. Donc finalement, on n'a plus que des luzernes intensives qui permettent de faire des granulés pour les chèvres et qui, elles, subissent 4, 5 fauches par an avec un risque fort de destruction des femelles puisqu'elles vont également dans ces luzernières. Donc on aboutit à une homogénéisation de ces plaines agricoles avec une raréfaction des insectes liés aux pratiques agricoles, notamment l'épandage massif de pesticides et notamment d'insecticides. On a aussi techniquement des engins qui sont aujourd'hui capables de faucher à des vitesses de 10-15 km/h, avant où c'était 5 km/h, et qui fauchent aussi de nuit. Donc on a augmenté la probabilité de destruction des femelles et des nichés. S'ajoute à ça des facteurs aggravants qui sont l'artificialisation et la fragmentation du territoire. Ça, c'est pour l'essentiel des espèces menacées, avec des infrastructures linéaires importantes qui sont installées, donc les routes, les lignes à grande vitesse. On en a eu deux, à la fois en centre-ouest et dans le sud également. Et puis une urbanisation qui continue à s'accroître, y compris en périphérie des petits villages. Chez nous, on peut voir que chaque petit village veut sa zone d'activité économique, son lotissement. Et donc, il y a énormément de mitage du territoire par ces petites franges urbaines. Et on a aussi un essor des énergies renouvelables. Donc ça, c'est également porté par mon ministère, développement des énergies renouvelables. Mais il faut qu'on essaie de trouver un compromis dans la mesure où on a un fort développement éolien chez nous en Poitou-Charentes et un fort développement des structures photovoltaïques dans le sud et qu'il faut arriver à trouver un compromis intelligent. Donc à ces fins, il y a un troisième plan national d'action qui a été entrepris et mis en place par le ministère en charge de l'environnement. Je vous ai mis à droite qu'il fait suite à une série de programmes qui ont permis d'enrayer le déclin de cette espèce, qui sont deux programmes LIFE. Ces programmes LIFE ayant été initiés par le Centre d'études biologiques de Fizé, qui est basé en Deux-Sèvres, qui est une structure mixte de recherche avec l'Université de La Rochelle, et qui a permis dans un premier programme LIFE de définir les mesures de gestion qui étaient intéressantes pour l'outarde, avec une mise en place de cahiers des charges avec les agriculteurs volontaires, qui a permis de désigner une dizaine de ZPS, donc zones de protection spéciale, les zones Natura 2000, consacrées à cette espèce. Aujourd'hui, on a 80% de la population d'outarde canepetière qui, en centre-ouest, est en ZPS, et 70% dans le sud. Et donc aussi un certain nombre de programmes de connaissances qui ont été mis en place. Et dans un deuxième LIFE, on arrive au programme de réintroduction avec la mise en place de partenariats avec la LPO pour un centre d'élevage d'études pour la préservation des oiseaux de plaine. Donc ce troisième plan d'action pour l'outarde, aujourd'hui, est recentré sur 10 actions. Donc c'est un plan d'action qui va courir sur 10 ans, de 2019 à 2028. Le premier objectif, c'est de prendre en compte l'outarde dans les projets d'aménagement. On a beaucoup de travail de sensibilisation et d'accompagnement des porteurs de projets pour limiter au maximum l'impact sur cette espèce qui est très farouche, qui s'éloigne des bâtis et des infrastructures humaines. On a 3 fiches qui concernent l'agriculture. En ce moment, on est dans une période où la nouvelle PAC est en discussion. Et c'est une espèce qui dépend énormément des mesures mises en place sur le territoire dans le cadre des projets agricoles et puis de la gestion des plaines. Donc on a un peu de lobbying à faire auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Europe. On avait le souhait de développer un site source d'outarde via la sécurisation foncière, de manière à ce qu'on ait des exploitations qui sont entièrement des exploitations tournées vers l'outarde pour produire un maximum de poussins qui puissent ensuite essaimer vers les autres milieux favorables alentour. Et enfin, on souhaite développer avec les agriculteurs un réseau de bonnes pratiques outardes, de manière à ce qu'au-delà des mesures agro-environnementales mises en place grâce aux fonds européens, on ait des agriculteurs qui, sur leur territoire, comprennent l'intérêt et s'engagent dans ce programme de conservation au quotidien. Sur les sites du sud, on a une problématique majeure qui est la conciliation de la présence de l'outarde sur les terrains d'aviation. Il se trouve que l'outarde se trouve très bien sur un certain nombre de sites où il y a un enjeu de sécurité avec les avions, mais un milieu très favorable, riche en insectes, et donc elle passe pas mal de temps en reproduction en hivernage sur ces sites. Donc on travaille aussi avec les sites du sud dans ce sens-là. Les deux points 6 et 7, on va en reparler, donc la sauvegarde des femelles et le renforcement des populations. Et les trois derniers points consistent à acquérir des connaissances, les valoriser, communiquer au sein du réseau en France et en Europe. Donc je vous disais que la population d'Espagne est en train de chuter, les populations ont été divisées par deux ces dix dernières années, donc pour les mêmes raisons que chez nous, finalement, l'intensification de l'agriculture. Donc on va avoir pas mal de réseaux à renforcer avec l'Espagne et le Portugal. Donc le 1er mai 2015, le centre d'études qui avait pour la préservation des oiseaux de plaine qui avait été mis en place dans le cadre du deuxième live sur la réintroduction de l'outarde a été transféré à l'élevage du zoo Odyssée, à Villiers-en-Bois, sur la propriété du conseil départemental des Deux-Sèvres, avec le soutien de fonds, il y avait un fort investissement financier de l'Europe, de la région Poitou-Charentes et de l'État pour accompagner la mise en place de ce site. En 2018, il a été décidé par le comité scientifique du PNA de sécuriser l'élevage en demandant à la haute touche de se réinvestir sur l'élevage de l'outarde. Donc pourquoi Zoo Odyssée ? Je laisse la parole à Auriane.
Donc pourquoi faire un élevage d'outarde à Zoo Odyssée ? Donc en plus d'un équipement vraiment optimal et d'une équipe à temps plein sur cet élevage, Zoo Odyssée, c'est vraiment un lieu idéal pour l'élevage d'outarde canepetière parce qu'il se trouve en fait au cœur de sites d'introduction, donc de 10 zones Natura 2000. Ces sites sont vraiment sélectionnés de façon pertinente en tenant compte notamment de la présence à proximité de rassemblements d'individus sauvages et de la qualité des parcelles en termes notamment de ressources alimentaires et de tranquillité vis-à-vis des activités cynégétiques. De plus, on a à côté du parc un partenaire majeur de l'élevage qui est le CNRS-CEBC de Chizé, qui a notamment une équipe agripop qui travaille sur les oiseaux de plaine et l'agriculture. Donc, au niveau de l'élevage conservatoire de Zoo Odyssée, on a un site qui est entièrement consacré à l'élevage, qui est interdit au public et qui se trouve au bout du parc, avec une équipe qui est constituée donc d'une responsable élevage conservatoire qui est la vétérinaire du parc, Laurie Berthomieu, de deux co-responsables à temps complet, dont moi, et puis deux saisonniers en période de reproduction du coup, qui viennent nous aider un petit peu pendant cette période assez compliquée. On a actuellement une quarantaine d'individus sur l'élevage, donc adultes de souches françaises migratrices qui sont répartis dans des volières type tunnel que vous pouvez voir en haut à gauche de la diapo, donc juste à côté du bâtiment d'élevage. On essaie de reproduire au maximum le comportement naturel des oiseaux. Donc l'équipe de Zoo Odyssée et l'équipe de la haute touche a travaillé avec Saint-Laurent et l'équipe de Well Nutrition pour confectionner un aliment spécifique qui répond parfaitement aux besoins de nos oiseaux. Et on a aussi mis en place différentes configurations en fonction de la période de l'année, c'est-à-dire que l'hiver, nos oiseaux qui en nature se regroupent pour partir en migration, voilà, nous l'hiver on essaie de reproduire un peu ça, donc on les met tout ensemble dans des volières qui communiquent entre elles. Et après, elles se baladent entre ces volières et se répartissent comme elles le veulent. Par contre, en période de reproduction, on va créer, nous, des groupes de reproduction. Et donc, à partir du mois de mai, on collecte les œufs très régulièrement pour maximiser les pontes de remplacement des femelles. Donc, les élevages conservatoires ont pour but, effectivement, d'élever des poussins, mais pas seulement. On essaie aussi d'en apprendre plus sur la biologie de cette espèce. Donc on collecte un maximum de données pendant la période d'élevage notamment, et tout au long de l'année, pour améliorer donc les connaissances sur l'espèce. Donc par exemple, chaque œuf est pesé, numéroté, mesuré avant sa mise en incubation. On va ensuite le peser régulièrement pendant l'incubation pour adapter l'hygrométrie en fonction de la perte de poids de l'œuf. Et ensuite, en fait, après ces périodes d'élevage, on va analyser toutes les données qu'on a récoltées pendant la saison pour produire un rapport. Dans le souci d'être en amélioration continue, on va apporter des modifications à nos protocoles d'année en année pour essayer d'améliorer et d'être un petit peu plus au top chaque année. On soulève également des questions comme l'incidence de la date de ponte sur la qualité des œufs ou l'influence de la masse d'un poussin à la naissance sur son développement. Et on présente chaque année tous ces résultats aux membres du comité scientifique du PNA.
Donc avant de passer au maintien du milieu, juste un petit aparté sur les autorisations administratives. C'est vrai que c'est une partie qui est aussi assez lourde dans la mesure où il faut un arrêté ministériel pour avoir le droit de relâcher ces oiseaux dans le milieu naturel avec un passage au CNPN à Paris. Il y a les CITES, il y a des autorisations d'ouverture, ça vous connaissez, et puis une autorisation de détention de spécimens en petite quantité pour cette espèce au niveau de l'élevage. Et il faut que chaque personne aussi qui apporte des œufs éventuellement issus du milieu naturel aux Odyssées dispose d'une dérogation espèce protégée. Donc c'est la partie un petit peu lourde aussi au niveau administratif. Alors après, une fois qu'on a toutes ces autorisations et qu'on relâche les individus, il s'agit de le faire dans un milieu le plus favorable possible. Or, on a vu que c'était justement la qualité de ce milieu qui était déterminante pour le maintien de la population. Donc il y a des mesures agro-environnementales qui sont mises en place. On a un peu moins de 10 000 hectares qui sont sous contrat en Poitou-Charentes, sous contrat avec des agriculteurs volontaires, sur la base d'un cahier des charges qui a été établi dans le cadre du premier LIFE et qui finalement consiste à implanter à la place d'une culture une prairie favorable à l'outarde. Souvent c'est un mélange de légumineuses et de graminées avec un retard de fauche soit au 31 juillet soit au 31 août, ce qui est encore mieux. Donc pour compenser la perte de production des agriculteurs, ils sont dédommagés à hauteur de 510 euros par hectare. Donc avant, dans la précédente programmation PAC, c'était 548. Mon idée, c'est que ça reste assez compétitif par rapport au cours du céréal. Sinon, les agriculteurs ne sont pas volontaires. Cette animation de territoire, cette recherche d'agriculteurs et de parcelles se fait avec des animateurs de terrain. Donc là, c'est très important d'avoir des structures qui, localement, peuvent prendre le relais pour la conservation de l'outarde, à savoir les associations de protection de la nature, bien sûr, le CNRS, on en a parlé, mais aussi les chambres d'agriculture qui sont partenaires et le conseil départemental des Deux-Sèvres qui est fortement impliqué dans ce programme. On a des financements européens, de l'État, du Conseil régional, on en reparlera. C'est vraiment le nerf de la guerre. Et l'idée, c'est toujours de sensibiliser les agriculteurs volontaires, mais aller aussi plus loin que la simple mise en place de mesures. On a aujourd'hui des agriculteurs très impliqués, qui sont aussi les premiers relais pour nous signaler qu'ils ont vu des femelles, qu'ils ont vu des nids, qui permettent d'aller les protéger. Pourquoi protéger les nids? On en a parlé. Les femelles se font, a priori, pas mal détruire par les fauches et les travaux agricoles. Alors quand c'est en MAE, il n'y a pas de souci parce qu'il y a un retard de fauche, mais pour les autres parcelles, on a une mortalité supposée importante. Donc on a investi dans un drone l'année dernière avec une caméra thermique et une caméra optique qui permet, vous voyez en haut à gauche, le petit point jaune, c'est la tache de chaleur qui est émise par la femelle. Et vous voyez cette même femelle en bas, donc le point marron sur le fond vert qui est pris avec la caméra optique. Donc on fait les vols de drones en fin de nuit, là où on a le contraste le plus important au niveau thermique, de manière à localiser des oiseaux qui sont dans des luzernes ou dans des prairies qui sont assez hautes, puisque la femelle, elle cherche à se camoufler. Donc avec la seule caméra optique, on n'arrive pas toujours à les voir, d'où l'intérêt d'avoir la caméra thermique. Et l'idée ensuite, là vous voyez en haut à droite les œufs, les petits œufs verts qui sont au sein de la prairie. Il y a en général 3 à 5 œufs. Donc l'idée, c'est de récupérer ces œufs, de les mettre au centre d'élevage pour les protéger des prédateurs et de les remettre, en fonction du cas de figure et de la capacité du nid à être bien protégé, de remettre les œufs sur le nid pour que juste avant l'éclosion, que la femelle les élève tout seule, ou de garder toute ou partie des œufs à l'élevage, notamment pour renforcer le pool de reproducteurs de l'élevage, de manière à ce qu'au niveau génétique, on garde suffisamment de diversité. Donc sur la diversité génétique, on va engager des études aussi en 2020, à la fois sur le pool reproducteur de l'élevage et sur les échantillons qu'on a pu prélever en nature.
2 minutes.
Donc on a vu la mise en place des élevages et le maintien du milieu. Donc l'étape logique suivante, c'est les relâcher de nos poussins dans ce milieu qui est normalement le plus sécurisé possible. Donc à partir de 70 jours, les oiseaux sont prêts à être relâchés. Ils sont normalement assez gros, assez costauds et assez lourds. Une fois que la date est fixée, il y a un suivi plus poussé des rassemblements d'individus sauvages qui a lieu et qui est fait par des acteurs locaux comme la LPO, le CNRS ou le groupe ornithologique des Deux-Sèvres pour déterminer l'endroit le plus favorable pour effectuer le lâcher. Et ensuite, il y a l'équipe du CNRS qui vient à l'élevage pour peser, prendre des mesures d'ailes, de tarses sur les poussins. On va aussi poser des bacs d'arvic, donc, comme vous pouvez le voir sur la photo, pour après identifier les oiseaux une fois qu'ils sont relâchés. Et on va aussi parfois poser des balises GPS. On essaie d'en poser sur les femelles surtout, parce que c'est sur elles qu'on a le moins de données, vu qu'elles sont très cryptiques, justement. Et ensuite, le suivi post-lâché est fait par ces mêmes acteurs locaux, donc le CNRS, la LPO et le GOTS. Donc pour finir, quelques chiffres sur l'élevage. Donc on est à 189 poussins nés depuis 2016, plus de 430 000 insectes engloutis, ça représente quand même une sacrée quantité. 90 oiseaux relâchés depuis 2017, on a posé donc 31 balises GPS. Et puis l'objectif des deux élevages réunis, c'est donc de relâcher 100 poussins par an. Le loup hurle. Au niveau des... Un rôle important aussi qu'à l'élevage, forcément, c'est la sensibilisation auprès du grand public. Donc on fait ça via les médias régionaux, nationaux, voire internationaux, parce qu'on a la télévision japonaise qui est venue il n'y a pas longtemps à l'élevage. Et on a fait une quinzaine d'animations aussi au sein de Zoo Odyssée cet été sur l'outarde. Et il y a une petite coquille d'outarde sur la diapo. Merci, monsieur Romano. C'est pas du tout Calviac, c'est la haute touche qu'on voulait nommer. Voilà.
Voilà, merci beaucoup.